Chapitre 33. La passerelle sur le gel. La caravane longeait depuis plus d'un kilomètre un lac gelé. Jeanne d'Arc et Wayne avaient pris le commandement du premier chariot. Cheyenne pilotait le deuxième et Augenor n'avait pas bougé du troisième. Quelques canards patinaient, cherchant la moindre ouverture dans la surface gelée et n'en trouvant pas, finissaient par s'envoler. La glace ne se brisait pas sous leurs pattes, mais aucun ado n'aurait osé s'y aventurer et encore moins y faire circuler une roulotte. Pourtant, il allait bien falloir finir par traverser cet étang. Tous guettaient depuis de longues minutes un chemin qui le contournerait. Versailles se situait de l'autre côté. Valère, carte en main, l'avait confirmé.
« Un pont !»
crièrent enfin les balayeurs qui précédaient le convoi d'une centaine de mètres.
« Y a un pont !»
Un regain d'espoir parcourut les rangs des ados, exténués par les rotations à tirer et pousser les chariots. Une fois franchi cet ultime obstacle, ils seraient à l'abri, dans le second château. Un mince espoir. Ce que les balayeurs avaient appelé « un pont » n'était en réalité qu'une fragile passerelle de bois vermoulu enjambant le lac gelé. La neige tombait de plus en plus fort, plus épaisse que jamais, plus collante, plus lourde. Dès qu'ils cessaient de bouger, une couche de plusieurs centimètres s'accumulait sur leurs bottes, leurs manteaux, leurs bonnets, et surtout sur les bâches des chariots qui ne tiendraient pas longtemps ainsi tendus par le poids. Il fallait prendre une décision.
« Nous n'avons pas le choix, » déclara Augenor. « Il faut tenter de passer. »
Liu et quelques autres savants observèrent avec méfiance la fragilité du pont. Rien ne garantissait qu'il soit assez solide pour porter 18 caravanes, leurs marchandises et tous les passagers. Pourtant, déjà Jeanne d'Arc donnait l'ordre d'avancer. La passerelle était juste assez large pour que les roues des chariots puissent rouler à quelques centimètres du vide. La première roulotte s'engagea. Une ombre surgit de nulle part. Certains aperçurent un fantôme voler dans le ciel blanc, d'autres virent bouger les branches du saule pleureur bordant le lac. L'instant suivant, Lupo Nero se tenait devant eux. Il ne portait qu'une tunique de cuir, incroyablement fine comparée aux épais manteaux dans lesquels ils étaient tous emmitouflés. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval.
« Vous êtes fous ! Reculez ! « Le pont va céder sous votre poids, et la glace du lac cédera aussi quand vous tomberez !»
Jeanne d'Arc hésita. Augenor observa longuement le garçon qui se tenait face à eux, puis, d'un geste de sa canne, désigna le paysage immaculé autour d'eux. Blanc, à perte de vue, même les arbres disparaissaient, avalés par le brouillard de coton.
« Nous n'avons pas le choix, nous devons rejoindre le château de Versailles !» « Il n'y a pas d'autre chemin !»
L'enfant sauvage n'avait pas bougé.
« Si, vous pouvez faire demi-tour, escalader la colline et redescendre de l'autre côté. »
Augenor avait étudié la carte avec Valère. Cela représentait un détour de plusieurs kilomètres, avec un dénivelé important. Il ignorait même si un sentier grimpait jusqu'au point le plus haut de la forêt de fausse repose et si les chariots pourraient y passer. Tous les ados s'étaient arrêtés, comme autant de bons hommes de neige figés dans les flocons qui voltigeaient sans arrêt, écoutant la conversation entre leur conseiller et l'enfant de la forêt.
« Impossible de reculer, » trancha Augenor. « On doit se mettre à l'abri avant la nuit, et mes troupes sont épuisées. »
Les ados confirmèrent, à peine étonnés de se faire appeler « mes troupes » par le grand cerf. L'enfant loup prit le temps d'étudier les visages fatigués.
Alors, laissez ici vos chariots et continuez à pied. Vous serez à Versailles dans moins d'une heure.
Impossible, répéta aussitôt Augenor.
Notre cargaison est trop précieuse, plus précieuse que nos propres vies.
Personne ne réagit.
Je la surveillerai, proposa Lupo Nero. Dans quelques heures, la tempête sera passée. La neige commencera à fondre. Vous serez reposés, vous reviendrez la chercher.
Des murmures de reconnaissance parcoururent l'assistance. C'était une proposition généreuse, raisonnable.
et la perspective pour les ados, qu'ils soient savants, singes ou soldats, de finir le trajet en marchant, sans tirer des roulottes pesant une tonne, apparaissait comme un rêve qu'ils n'avaient même pas osé imaginer.
« Personne ne viendra vous la voler, » insista Luponero. « Les corbeaux et les loups se fichent bien de vos livres, de vos instruments et de vos tableaux. »
« Tu ne peux pas comprendre, » répondit pourtant Augénor avec autorité, comme s'il s'adressait à un enfant incapable de saisir la complexité de leurs responsabilités. « Non, nous ne pouvons pas abandonner notre chargement. »
Il se retourna vers les trois chariots réservés aux singes, dans lesquels les plus belles œuvres d'art du Louvre avaient été entassées.
« N'est-ce pas, Isalis ?»
La ministre du temps passé fit oui de la tête, sans cesser de sautiller d'un pied sur l'autre pour se réchauffer.
« N'est-ce pas, Liu ?»
demanda ensuite le conseiller en dirigeant cette fois le regard vers les chariots des savants. Le petit savant détourna le regard sans répondre, continuant de fixer le pont branlant.
« N'est-ce pas, Vanille ?»
s'empressa d'ajouter Augénor. La ministre du jour et de la nuit contrôlait les six derniers chariots. Les flocons formaient des dizaines d'étoiles dans ses longs cheveux blonds.
« Impossible, »
confirma Vanille.
« Impossible d'abandonner notre stock de nourriture, de graines, de farine ou de fruits. Tout sera pillé en quelques heures par les charognards de la forêt. »
Luponero les observa, abasourdis par leur entêtement.
« Pousse-toi maintenant !»
ordonna Augénor. Il parla assez fort pour que tous l'entendent.
« Sa Majesté Alix m'a confié la responsabilité de ce convoi, et je prends la décision de continuer. »
Luponero fixa encore longuement le conseiller, cherchant vainement comment le faire changer d'avis, puis soudain sauta de la passerelle. Tous crurent qu'il allait crever la surface gelée du lac, mais ses mains attrapèrent au dernier moment la branche d'un saule. Il s'en servit de liane et disparut en quelques secondes dans le brouillard blanc entourant le lac. Liu continuait d'évaluer la solidité du pont, inquiet.
« En route !»
commanda Augénor. Jean d'Arc et Wayne bandèrent de nouveau leurs muscles et posèrent un premier pied, une première roue, sur la fragile passerelle.